L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez, le nom de cette émission est Venez à Jésus, que Jésus continue de vous bénir, qui que vous soyez. Aujourd'hui, nous avons encore la sœur Marie Perpétue Mukulu et nous partageons toujours sur le thème le disciple et la souffrance. Bonjour sœur.
Bonjour frère Raph.
Merci d'avoir répondu encore une fois à cette invitation, que le Seigneur te bénisse.
Je t'en prie, c'est à moi de te remercier. C'est une grâce pour moi de parler à tout le monde qui nous écoute. C'est vraiment une grâce de Dieu.
Avant d'aller plus loin, je voudrais t'inviter, Perpétue, à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. S'il te plaît.
Seigneur, tu sais jusqu'où nous te sommes vraiment reconnaissants pour cette opportunité que tu nous accordes de parler de la souffrance, ce thème qui ronge de multitudes de gens, chrétiens et non-chrétiens à travers le monde. Merci d'être là avec nous. Merci de parler à travers nous. Merci de toucher les âmes, de résoudre nos problèmes, de nous consoler, de nous réconforter pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Le disciple et la souffrance. Nous avons défini la souffrance comme étant... ce que ressent une personne soumise à la douleur ou à l'affliction. Elle peut être d'ordre physique, moral, émotionnel ou spirituel. Nous avons vu aussi qu'il est possible, en tant qu'être humain, de passer par des périodes de souffrance. Mais nous avons aussi vu que tout être humain ne réagit pas face à la souffrance de la même manière. Il y a ceux qui nient la souffrance, il y a ceux qui l'acceptent, je vais dire, trop passivement, comme si c'était la volonté de Dieu, alors qu'ils ne cherchent même pas à comprendre pourquoi ils sont en train de passer par la souffrance. D'autres, je vais même carrément dire, tellement ils sont traumatisés par la souffrance, qu'ils sont convaincus qu'il y a forcément un problème dans leur vie. Pour eux, la souffrance, c'est qu'il y a un problème.
Il y a une main invisible.
Il y a une main invisible. Perpétue, dis-nous un peu. Selon toi, la souffrance peut nous enseigner quoi? Tu dis, la Bible répertorie plusieurs sortes de souffrances à la leçon 3 du livre La formation des disciples. La Bible répertorie plusieurs sortes de souffrances et met en valeur leurs conséquences possibles, bénéfiques et constructives. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça?
Je peux partir d'un exemple. Tu venais dans l'émission précédente de citer le cas de Joseph, pour qui la souffrance a été vraiment une école de formation. Je peux y ajouter le cas de Moïse. Je crois que si Moïse était resté chez Pharaon, il ne serait pas capable de guider les enfants d'Israël tel qu'il l'a fait. Parce qu'il les a orientés en tant que bergers. Et non pas en tant que prince
et chef militaire,
comme le ferait par exemple Pharaon et ses gens. Et le souffrance de Moïse l'ont aiguisé, l'ont façonné, l'ont formé comme berger. C'est quand il a souffert qu'il a réalisé ce qu'il fallait en plein désert faire pour que le brebis puisse être en bonne santé pour que le brebis trouve de quoi en manger. Et c'est cette image-là qu'il a façonnée pour que quand il sera avec les enfants d'Israël, qu'il soit un bon berger. Nous voyons aussi les cas de David. David s'est servi de ses expériences de souffrance pour tuer Goliath. Il a dit, pendant que j'étais derrière les brebis, quand survenait un ours ou un lion, voilà comment je l'attaquais. C'est Dieu là. C'est ce même Dieu qui va me protéger devant cet incirconcis qui est en train d'insulter les dieux d'Israël. Nous voyons beaucoup de gens qui ont accepté d'être façonnés, d'être formés, que Dieu a façonné à travers les souffrances. Donc nous disons que les souffrances peuvent avoir un but formateur.
Elle développe nos facultés et nos aptitudes physiques. intellectuelle, morale, spirituelle. Elles sont éducatrices. Leur but est notre croissance. Je vais même dire notre croissance spirituelle.
Voilà. Ces genres de souffrances nous permettent d'abord de nous découvrir nous-mêmes. Vous savez, on a dit ça, je crois, pendant des émissions précédentes, que quand tout va bien, on a difficile à se découvrir, à se connaître réellement. On ne sait pas que devant telle circonstance, je peux m'énerver, je peux même tricher, je peux même voler tout. Le moment de souffrance nous permet de nous découvrir nous-mêmes, permet à ce que le vrai nous s'exprime, réagisse. Alors, face au vrai moi, comme ça. Mais je n'aime pas ce type de réaction. Alors, je vais apprendre au pied du Seigneur quelle est la meilleure réaction que je dois avoir face à ce style de vie. Donc, la souffrance nous permet de nous découvrir, de nous connaître, afin de nous fixer par rapport à notre processus de croissance vers la maturité spirituelle. La souffrance est une sorte, peut-être une sorte de bâton, d'oulette, que Dieu utilise pour nous remettre sur la bonne voie. La souffrance peut aussi avoir un but préventif. Vous savez, il peut nous prévenir d'un danger, d'un risque, d'un mal qui peut venir, hein, sous forme d'une opposition brutale. La souffrance peut nous avertir des dangers ou nous donner une meilleure orientation. Nous voyons par exemple le cas de Job. Les souffrances de Job ont aidé Job à comprendre que on ne peut pas discuter avec le Seigneur. On ne peut pas discuter avec le Seigneur. Il est le maître de tout, il est souverain. Il est souverain. Et Job a dit à la fin, j'ai entendu parler de toi. Et maintenant, mon œil t'a vu. Je crois qu'après ces souffrances, Job avait une autre connaissance du Seigneur. Alors, les souffrances peuvent aussi être destinées à nous éprouver, à nous tester. Nous voyons cela avec les enfants d'Israël. C'est à travers les différentes souffrances que le Seigneur, que Dieu connaît tout, les aider eux-mêmes à comprendre si vraiment leur amour envers le Seigneur était authentique. Parce que Jésus même disait, vous me suivez parce que vous avez mangé et bu.
Tout à fait.
Alors c'est face aux souffrances que nous allons nous rendre compte si réellement nous aimons le Seigneur ou nous sommes avec lui parce que tout va bien.
Écoute ça, j'aime ce verset, Deutéronome 8, verset 2, tu l'as cité aussi dans ton livre. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Tu sais, Dieu connaît mon cœur mieux que moi-même. Exactement. Dieu sait comment je vais réagir face à n'importe quelle situation. Mais il veut, tu vois, moi j'ai toujours vu ça comme il veut me mettre devant un fait accompli. Raphaël, tu n'es pas assez bon pour gérer $1 million. Mm-hmm. Oh Seigneur, non, si tu me donnes $1 million, tu vas voir, je vais réussir, j'aurai une bonne vie chrétienne. Ok, il me donne les $1 million et puis paf, on voit Raphaël qui s'intéresse plus à Dieu. Ou Raphaël, tu ne m'aimes pas assez pour te priver de certaines choses. Si je t'enlève cela, tu vas commencer à me maudire. C'est un peu ce que Dieu a, c'est un peu ce que Satan a demandé c'est ce que Satan a dit à Dieu. Si tu lui retires ses bénédictions, mais ce gars-là va te maudire, il va te chasser. Ah bon? Parce que Dieu connaissait le cœur de Job. Mon frère, ma sœur, Dieu dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années d'éprouver. On ne peut qu'humilier et éprouver quelqu'un que par la souffrance. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu n'était pas, on va dire, il n'était pas sous-informé. Il savait. Mais il voulait montrer ça à Israël que voilà, c'est vrai que vous tapez des mains, vous avez loué, vous dites que vous m'aimez, ok. Mais dans le désert, quand il manque tout, dans le désert, quand il y a des problèmes, tu sais, bon, je n'ai jamais vu le désert, mais j'essaie un peu d'imaginer, tu imagines une étendue désertique. Donc, tu ne sais rien pour produire. Tout ce que tu as, ne va pas se multiplier, mais au contraire, ça va se démultiplier, si je puis dire comme ça. Donc, en fait, tu n'as aucune assurance
du lendemain. Même pas du soir. Mais...
Et Dieu te dit, je suis ton assurance. Alors, il veut te prouver, il voulait prouver à Israël que vous n'êtes pas assez mature. C'est vrai que vous avez vu des grandes choses. Tu imagines, ils ont vu des grands miracles en Égypte. Ils ont vu de grandes choses. Mais Dieu veut leur prouver que vous ne m'aimez pas encore assez. Mon frère, ma sœur, la souffrance, les difficultés, les tempêtes de la vie sont une occasion pour nous de prouver à Dieu que nous l'aimons. C'est une opportunité de prouver à Dieu que nous nous attachons plus à lui qu'aux choses de ce monde. Ce n'est pas parce que je perds mon travail que Dieu est devenu mauvais. Tu connais un peu l'histoire, ou bien le genre de slogan que nous sortons souvent à Kinshasa, quand le transport est très difficile, tu montes dans un taxi. Ah, Dieu est bon. Mais Dieu a toujours été bon, même quand tu étais passé dans le taxi.
Oui.
Dieu était bon. Ce n'est pas parce que tu es monté dans le taxi que Dieu est bon. Non, Dieu t'aime que tu sois dans le taxi ou pas. Parce que sinon, ça voudrait dire que Dieu n'aime que ceux qui sont montés dans le taxi. Mm-hmm. Et ceux qui sont restés, Dieu ne les aime pas. Non, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et l'épreuve, la souffrance, les difficultés doivent être une occasion pour nous de lui prouver que nous l'aimons aussi.
Oui, nous revenons à ce que nous avons dit tantôt dans Matthieu 22, 37 et 38.
Matthieu 22.
Versets 37 et 38. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. De ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. En fait, Dieu nous a créés, Dieu aimerait que nous puissions l'aimer de tout notre être, mieux que nous-mêmes. Et bien des fois, quand toutes nos pensées, de tous nos cœurs, de toute notre âme, nous disons ce qui est, nous disons la vérité selon nous, mais ce n'est pas la réalité.
Tout à fait.
Nous voyons par exemple le cas de Pierre, quand il a dit, Seigneur, je te suis et puis sincère. Mais face aux souffrances, Pierre, il s'est découvert. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi.
Tout à fait.
Et quand tu seras fermé, n'oublie pas de prier pour tes frères.
Donc ça veut dire que au moment où il priait, Pierre n'était pas fermé.
Il n'était pas fermé.
Il n'était pas solide.
Non.
Il n'était pas fiable à 100%.
Il était sûr de soi-même, alors que Jésus, Dieu, le connaissait mieux que lui-même.
Ne compte pas sur ta propre sagesse.
Voilà. Alors pour permettre à Pierre de découvrir sa vraie identité, Jésus a permis qu'il passe par ces moments difficiles.
Tout à fait.
Alors Pierre, après avoir pleuré, il s'est repenti. Et après la résurrection de Jésus, et même après son ascension, on voit que Pierre n'est plus l'ancien Pierre. Il est vraiment façonné.
Il est différent.
La souffrance a façonné Pierre. Alors, Jésus, Dieu voudrait que nous puissions l'aimer plus que nous n'aimons nous-mêmes. Moi, j'aime bien ce qu'on fait les amis. Oh, cher roi, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains. Mais même s'il ne le ferait pas,
même s'il ne le faisait pas,
nous
il n'en
n'allons
est pas,
pas
question.
Renier ces dieux-là. C'est comme ça que Dieu aimerait que nous puissions l'aimer. Alors, Daniel et ses amis ont prouvé vraiment qu'ils aimaient le Seigneur plus que même de tout leur cœur. Ils aimaient le Seigneur de toutes leurs âmes. Ils aimaient le Seigneur de toutes leurs pensées. Ils aimaient le Seigneur. Nos souffrances, en quelque sorte, nous aident à nous checker nous-mêmes, à nous mettre sur une balance par rapport à notre amour envers le Seigneur.
Écoute ça, tu cites un verset, Ésaïe 48, verset 10, que j'apprécie beaucoup. Ésaïe 48, verset 10. Je t'ai mis au creuset,
voilà.
Mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Dieu ne nous éprouve pas quand tout va bien.
Non.
Dieu veut. En fait, Dieu fait sortir la valeur de nous dans le feu. Tu sais, Perpétue, lorsqu'on veut séparer certains matériaux précieux, de leur saleté, de leurs impuretés,
ouais,
c'est le feu. Si on pouvait donner un micro à ce minerai-là et lui donner une, lui prêter une voix, mais on entendrait des cris.
Ouais,
on entendrait des pleurs.
Comme on a dit pour les cas de l'or la fois passée.
Voilà.
C'est horrible.
Mais après, quand il est c'est bien vrai. Façonné, lorsqu'on tout le met devant des vitrines, il brille de plein feu. Mais en fait, on en vit, mais on oublie mais le chemin par lequel il est passé. Et permettez-moi de faire une parenthèse. Beaucoup de chrétiens envient certains hommes qui sont arrivés à un standing. Ils disent, ah, j'aimerais devenir comme celui-là. J'aimerais devenir comme celle-là. C'est une très bonne chose. Mais celui-là ou celle-là dont tu veux devenir, c'est seulement le diamant qui brille aujourd'hui, l'or qui brille aujourd'hui, ou bien tu veux aussi passer par le chemin par lequel
non,
il est
généralement,
passé.
On ne veut pas qu'on parle de temps difficile de la personne. Hein. On veut juste être ce que la personne est
aujourd'hui. Ce n'est pas possible.
Avoir sa sagesse, son intelligence,
ce n'est pas possible.
Ses richesses.
Ce n'est pas possible.
Mais ce sont des choses que ces gens ont acquis au fil de temps, à travers de moments de douleur, de prières. Parce que quand tu traverses des moments difficiles et que tu regardes, tu lèves les yeux vers le Seigneur, tu te mets à prier, c'est alors que Dieu te communique une sagesse précise pour un cas précis de souffrance.
Tu sais, si David n'avait pas été persécuté par Saül, je ne crois pas que beaucoup de chapitres des psaumes auraient été écrits.
Non, il n'en aurait pas. David a été façonné à travers... En fait, David, hein, tu vois comme la Bible parle de Jésus, il était un homme de douleur. David est un homme qui a suivi les traces de Jésus. Il était homme de douleur. Moi, ça m'a toujours tiqué, il était cadet. Mais son père le laissait paître les brebis.
Dans le froid.
Dans le froid, affronter
l'ours
et les lions.
Et le lion.
Alors que ses aînés étaient là à la maison.
En train de manger. Et tu imagines, au moment où le prophète vient, on ne prend même pas la peine de l'informer.
Non. On a même oublié qu'il existait. Parce qu'on a dit, est-ce que ce sont là tous les enfants que tu as?
Heureusement que Dieu est vivant.
Heureusement que Dieu est vivant.
Parce que si on ne devait compter que sur les hommes, je crois qu'on nous oublierait pour beaucoup de choses.
Alors, être oublié pour lui, ce n'était pas la première fois. C'était pas la première fois de voir que quelqu'un d'autre le maltraitait. Parce que d'une façon ou d'une autre, il a souffert quand il était enfant. Et face à Saül, il pouvait utiliser son expérience d'enfance. Et avec ce que Saül lui faisait voir comme couleur, il ne continuait qu'à grandir en sagesse, grandir en intelligence et grandir en comment aider les autres à être de bons chefs le jour à venir. C'est pourquoi les livres des psaumes nous donnent beaucoup d'instructions. Mais aussi, si Salomon est arrivé à avoir cette sagesse, entre autres, c'est parce qu'il a eu David pour père.
D'accord.
Il a observé la vie de son père, comment son papa vivait, et il s'est dit, Seigneur, moi je suis incapable de diriger cette nation que tu m'as donnée. Il a préféré demander la sagesse de Dieu.
Il s'est comparé à David.
Il a dit non.
Je ne peux pas être égal à cet homme. C'est impossible.
C'est impossible.
David !
Non.
Moi remplacer David. Donc, et encore que je suis son fils, je suis appelé à faire mieux que lui. C'est pas possible. Écoute, Juge 3, verset 1. Voici les nations que l'Éternel, ce n'est pas le diable, hein? Ce n'est pas les cocos de famille, ce n'est pas les oncles de famille, non. Voici les nations que l'Éternel laissa, pourquoi? Pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Voici les nations que l'Éternel... Tu imagines, ma sœur, il y a des situations... En fait, ce que la Bible est en train de dire, il y a des souffrances que Dieu permet pour simplement t'éprouver, pour simplement te façonner, pour simplement t'apprendre à prier, pour t'apprendre à combattre spirituellement, pour t'apprendre qu'il faut grandir, pour t'apprendre qu'il faut progresser, pour t'apprendre qu'il faut, je sais pas, commencer à partager, qu'il faut commencer à pardonner aux autres,
ouais,
qu'il faut commencer à aimer les autres, qu'il faut commencer à s'intéresser aux besoins des autres, qu'il faut commencer à bénir les autres. Tu as des situations difficiles, tu as des difficultés, mais en fait, le but, c'est pour t'enseigner, c'est pour t'aider à grandir, c'est pour t'aider à devenir plus mature. Les enfants, quand ils viennent au monde, ils ne savent pas marcher. Ils voient les autres commencer à marcher et puis ils commencent à essayer, ils tombent. La pesanteur les attire. Mais si on leur demandait, qu'est-ce que tu veux? Ah non, moi je vais seulement rester comme ça. Non, tu ne peux pas rester comme ça. Tu dois te mettre debout.
Apprendre.
Lorsque les enfants, les dents commencent à sortir, les dents de lait, ça ne leur fait pas plaisir. Ils ne chantent pas, ils sont en train de pleurer. Mais si ces dents ne sortent pas, ils auront du mal à manger la nourriture solide. Moi, je suis même tenté de dire que dans la croissance spirituelle, les souffrances, ce sont les dents de lait qui commencent à sortir.
Oui, oui.
Parce que tu dois commencer à manger plus tard la nourriture solide.
Alors, bien de fois, nous cramponnons sur la souffrance, sur la douleur que nous ressentons à cause de ces souffrances-là. Mais je propose que nous puissions voir l'autre côté de la souffrance, voir la souffrance à travers les lunettes de Dieu. Pourquoi ces souffrances? Et qu'est-ce que je peux tirer de ces souffrances?
Tout à fait.
Est-ce que ce n'est pas une école pour moi? Qu'est-ce que je peux tirer de ces souffrances? Si, après avoir passé un temps de souffrance, je suis restée la même, je dois me dire que je n'ai pas bénéficié de cette souffrance. Alors, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons dire que la souffrance est une sorte de bénédiction pour nous. Parce que la Bible nous dit que tout ce que nous mettons entre les mains du Seigneur devient bénédiction pour nous. Tout ce que nous vivons avec le Seigneur a de points positifs pour nous. L'important pour nous, c'est de comprendre pourquoi le Seigneur permet ce type de souffrance et comment il aimerait que nous puissions les affronter. Mais surtout, louer le Seigneur de tout cœur à cause de nos souffrances. Et nous savons que si le Seigneur permet que nous puissions traverser ces moments de douleur, c'est parce qu'il nous juge capables de les affronter. Alors moi, je me dis que chaque fois que je n'arrive pas à affronter des souffrances que le Seigneur permet que je traverse, alors j'ai échoué. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Il est Dieu, c'est lui qui m'a créé, il me connaît. Il sait qu'il a enfoui en moi tout le moyen possible pour que j'arrive à bien contrôler cette souffrance et à en tirer un grand profit. Alors, je dois faire preuve que Dieu n'a pas tort de permettre que je traverse ces moments
de souffrance.
Donc, toujours et toujours, remettre au pied du Seigneur, travailler mes souffrances avec lui, le comprendre selon lui, et puis les affronter selon qu'il aimerait que je les affronte.
Je viens de penser à une petite histoire. Écoute ça, c'est l'histoire un peu de Paul. Dans Acte 16, après qu'on ait arrêté Paul. Écoute ça. Au verset 22. Acte 16, verset 20. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les sept aux pieds. Verset 25. Pendant la période de souffrance, vers le milieu de la nuit. Nous savons que la nuit n'est pas une image bonne.
Non.
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas pleuraient. Ils se lamentaient. Non, dans ma Bible, il est écrit, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils ne faisaient pas ça en cachette. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Paul et Silas, parce qu'ils veulent marcher avec Dieu, parce qu'ils veulent obéir à la parole de Dieu, se retrouvent en prison. Injustement, parce qu'ils ont fait un miracle au nom de Dieu. Injustement, on les chicote. Non seulement on les met en prison perpétuelle, mais on les met vraiment dans les cachots de la prison. Donc c'est vraiment, ce sont des criminels. Et eux, ils ne se sont pas plaints. Non Seigneur, tu vois, tout ça c'est toi. J'étais là peinard chez moi, non, que je commence à prêcher l'évangile. Voilà maintenant, je me retrouve dans des problèmes. Non, il nous est dit Paul et Silas priaient et louaient Dieu. Ils louaient, ils disaient quoi? Merci Seigneur. Peut-être, je ne suis pas sûr, peut-être qu'ils disaient, parce que tu nous as permis de souffrir.
Ouais.
Merci Seigneur, parce que tu nous as donné l'opportunité d'être fouettés pour le beau nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, je te bénis. Ah Seigneur, je te loue. Et comme Dieu ne peut pas rester insensible à ce genre de choses, parce qu'il voulait sauver des gens dans cette prison, il fait un miracle.
Alors tu sais, le sens de la louange à travers les souffrances, ce n'est pas seulement pour que les gens voient qu'on loue le Seigneur, mais le fait de sentir qu'on a le Seigneur en soi.
Tout à fait.
C'est beau même quand on souffre. C'est-à-dire, on a Dieu, on sent cet amour-là, qui dépasse même les douleurs. Alors, l'amour du Christ en nous fait que nous soyons toujours errés. Toujours errés. Quand bien même que je souffre, mais le fait de sentir que le Seigneur m'aime et qu'il est avec moi, qu'il me connaît, qu'il me comprend, ça fait beau et je ne peux que le louer. En fait, Dieu nous a créés pour le louer. Un chrétien authentique ne peut que dédier sa vie aux louanges du Seigneur, qu'importe le temps qu'il passe. Les chrétiens doivent arriver à se dépasser de ce qui est terrestre, à voir au-delà de ce qui est terrestre, ce qui est enfoui, la grâce d'avoir Christ en soi. Christ qui est capable de dominer toute souffrance, en fait, qui a déjà déraciné le cœur même de nos souffrances.
Mon frère, ma soeur, vous qui êtes en train de nous écouter en ce moment, en fait, je n'ai envie que de faire une seule chose, vous demander de recevoir Jésus. Parce que si vous recevez Jésus, et que même si les difficultés du monde entier se présentent souvent sur vous, vous aurez cette joie, vous aurez cette paix de dire, Seigneur, merci d'être entré dans ma vie, même si le monde est en train de s'effondrer autour de moi, je tais-toi, le Créateur du monde. Baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens à toi. J'ouvre la porte de mon cœur à Jésus. Je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je prends l'engagement aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma vie à suivre Jésus-Christ tous les jours de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Même si le monde s'effondrait, même si je passais par les pires des souffrances, Jésus-Christ est mon Sauveur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, toujours avec la même invitée. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.
Amen.
L'émission Venez à Jésus vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.